Matin Première.
Jean-Pascal Vanipeurzel est avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue. Vous êtes professeur de climatologie donc à l'UCL et ancien vice-président du GIEC. Vous êtes interrogé ce matin par Fabrice Grosfilet. Messieurs, c'est à vous.
Jean-Pascal Vanipeurzel, est-ce qu'il y a des jours où vous avez le sentiment de radoter ?
En tout cas, je sais que je dis presque la même chose depuis presque 40 ans. Et c'est vrai que c'est lassant de voir à quel point, malgré ces répétitions, pas seulement les miennes, mais celles de tous mes collègues climatologues, on est si peu écouté. Hein. Le niveau d'action par rapport au changement climatique est toujours extraordinairement faible par rapport à l'importance de l'enjeu.
Donc vous avez commencé à travailler sur ces questions en 78, et le 7 août 2003, donc c'est il y a 15 ans jour pour jour, interview au journal Le Soir, vous dites à l'époque on va vers des vagues de chaleur à répétition, avant il y avait en Belgique 2 ou 3 étés chauds par siècle, à l'avenir il y en aura 1 sur 3, voire peut-être même 1 été sur 2 qui sera un été caniculaire, ça s'est vérifié, vous aviez raison ? C'est une satisfaction ou c'est un regret ?
C'est un regret d'avoir eu raison, oui. Et c'est une prédiction dont je suis triste, intrinsèquement, parce que j'ai aussi annoncé ce jour-là, il y a tout juste 15 ans, qu'il y aurait entre 1000 et 1500 morts en Belgique cet été-là. Et les statistiques ont montré quelques mois.
Il y en a eu 1300.
1200, ouais, donc, ouais.
On va y revenir. C'était lié à l'ozone. Je voudrais quand même vous interroger sur un élément qui est tombé cette nuit. C'est une nouvelle étude qui est publiée par une revue scientifique américaine qui s'appelle sur des travaux de chercheurs suédois, danois, polonais, etc. Elle est très alarmiste. Elle nous dit que si on a encore une température qui augmente de 2 degrés, on va connaître un point de non-retour, qu'on va basculer dans autre chose, que dans quelques décennies, on aurait une élévation globale de la température de 4 à 5 degrés, un niveau de la mer qui monterait de 10 à 60 mètres. C'est une étude crédible ou elle est un petit peu alarmiste ?
Alors, c'est certainement alarmiste de dire 10 à 60 mètres si c'est d'ici quelques décennies, mais ce n'est pas ça que l'étude dit. L'étude dit 10 à 60 mètres, parce que je l'ai consulté, 10 à 60 mètres d'ici un certain nombre de siècles, si pas de millénaires, parce que 10 à 60 mètres, ça veut dire que les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique fondraient très largement, et ça prend du temps. Mais effectivement, c'est un risque. Très
L'étude quand même parle de la Terre qui deviendrait une étuve, de rivières qui débordent, d'ouragans, etc.
Je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de ces éléments-là qui commencent tout doucement à être visibles aujourd'hui, de plus en plus fréquemment. On a des événements extrêmes comme la vague de chaleur comme nous connaissons maintenant, mais aussi des pluies très violentes qui provoquent souvent des inondations qui se multiplient. On a des effets sur l'agriculture, des effets sur la santé, des effets sur l'économie d'une manière générale. Et donc, ce dont il parle à propos du futur, ce sont des choses qu'on commence tout doucement à voir aujourd'hui déjà.
Alors, je reviens à cet article de 2003 où vous annonciez qu'il y aura entre 1000 et 1500 morts. Pour 2018, vous nous annoncez quoi ? On a eu deux vagues de chaleur très importantes.
D'abord, je ne suis pas épidémiologue, donc je ne suis pas
ni Madame Irma non plus
de l'effet de la chaleur sur la santé. Je crois qu'heureusement tous les conseils, toutes les mesures qui ont été prises, les plans canicules, etc., ont eu un certain effet. Et les études montrent. Il y a une étude récente qui montre, par exemple, qu'en Espagne, malgré une intensification des vagues de chaleur, le nombre de morts a plutôt eu tendance à diminuer grâce aux mesures de prévention qui ont été faites. Donc je ne me risquerai pas aujourd'hui à faire des prévisions, mais il y aura des décès, il y aura des victimes, c'est malheureusement inévitable.
Ouais, et ce qui s'était passé en 2003, c'était effectivement lié à la chaleur, c'était lié aussi aux fortes concentrations en ozone.
Les deux vont souvent ensemble, malheureusement. Ouais.
Pour lutter contre l'ozone, les Français ont justement sorti les grands moyens ces jours-ci, donc la vignette critère qui interdit à certains véhicules de rouler en centre-ville, des limitations de vitesse qui sont réduites de 20%.
Et qui ne sont pas respectées, je peux vous le dire, je revenais avec une voiture, je l'avoue, de France il y a quelques jours. J'ai respecté strictement cette limitation de vitesse qui était déjà
110 km sur autoroute.
Et j'étais dépassé par tout le monde.
Ouais. Est-ce que les Belges devraient faire pareil que les Français ?
Ce n'est pas mon rôle de dire cela, ça dépend. La pollution par l'ozone peut avoir une composante régionale et locale. Et donc, ce qui est valable à un endroit n'est pas forcément automatiquement valable ailleurs.
Mais pour qu'on comprenne bien, la circulation automobile, bon, c'est à la fois effectivement des gaz à effet de réchauffement, donc ça c'est le long terme, mais c'est aussi du dioxyde d'azote qui favorise l'ozone, ça c'est le court terme. C'est pour ça qu'on limite la vitesse à court terme.
Hein. Oui, mais ce qui est plus important, ce sont les mesures structurelles, parce parce qu'on se rend compte, en ce qui concerne l'ozone, que bien souvent prendre des mesures ponctuelles du genre limitation de vitesse, circulation alternée, etc., n'a qu'un effet très limité. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de travailler sur la propreté des moteurs, avec des constructeurs qui ne trichent pas, de préférence, et aussi c'est sur la diminution du trafic routier, en promouvant les transports publics, en facilitant le transport par train, par exemple, ce qui est difficile à l'intérieur de l'Europe. Si on fait des trajets internationaux, c'est toujours très difficile de se déplacer en train. Et donc, les mesures structurelles sont beaucoup plus importantes que des mesures ponctuelles comme des limitations de vitesse.
Est-ce que vous êtes conscient que vous n'allez pas de populaire en disant ça ? Et que c'est peut-être le problème du GIEC, c'est de préconiser notamment une diminution du trafic automobile et qu'on n'y est pas prêt ?
Alors, on n'y est pas prêt s'il n'y a pas d'alternative, mais regardez ce qui se passe au Danemark, aux Pays-Bas, où on a créé des autoroutes pour les vélos, par exemple, où on développe le transport public beaucoup plus efficacement à l'échelle nationale que chez nous. Et là, c'est très populaire de faire, par exemple, du vélo et d'utiliser moins sa voiture. Donc, ça dépend de la disponibilité des alternatives aussi.
Et le point central, c'est bien ça, c'est bien le déplacement, le transport routier, beaucoup plus que le débat, par exemple, sur le nucléaire qui a moins d'effet de réchauffement que les énergies fossiles.
Mais la question énergétique est en tout cas beaucoup plus large que la seule question de l'électricité. L'électricité, c'est une petite fraction du total des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, tout ce qui concerne la mobilité, effectivement, mais aussi le chauffage de l'habitat, l'industrie, le système alimentaire, aussi la production agricole, dégage des gaz à effet de serre. Il faut les maîtriser dans tous ces domaines-là, et pas seulement dans le domaine de l'électricité.
Ouais, entre l'électricité nucléaire, le renouvelable ou l'énergie fossile telle qu'on l'emploie aujourd'hui, la préférence du climatologue va où ?
Le pire, c'est l'énergie fossile et le mieux à long terme, c'est certainement les énergies renouvelables. Et là où l'énergie nucléaire est présente, eh bien, il faut s'en libérer si on a décidé de s'en libérer pour des raisons de sécurité ou de vieillesse de centrale, mais en veillant à remplacer les capacités par des sources d'énergie propres comme les énergies renouvelables, bien sûr.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Européens qui vous entendent ce matin et qui se disent « Oui, mais ils sont bien gentils, tous ces climatologues, le GIEC, tout ça. Mais si nous, les Européens, on doit changer notre mode de vie, alors que les Américains, les Chinois, les Indiens ne le font pas, on se fait mal pour rien et la Terre va quand même continuer à se réchauffer. »
Mais d'abord, je dirais que l'Europe se fait mal en acceptant que les changements climatiques provoquent tous les dégâts qu'elle provoque. Regardez ces incendies en Grèce, en Espagne, au Portugal. Regardez ces effets dont on mesurera l'importance chez nous que dans plusieurs mois. Sur les effets de la canicule, la pollution par l'ozone. Regardons les effets sur les ressources en eau.
Est-ce qu'on peut réellement enrayer le réchauffement climatique seulement les Européens ? Ou est-ce que c'est une illusion ?
Bien sûr que non. C'est d'ailleurs l'esprit de l'accord de Paris, c'est qu'il faut un travail international.
L'accord de Paris qui prévoit de limiter à 2 degrés le réchauffement, alors que si on ne fait rien, ce serait 6 degrés d'après les projections, c'est ça, sur une centaine d'années.
Sur le long terme, ça pourrait être beaucoup plus que 2 degrés, en tout cas, oui.
On peut ramener les Américains à la raison ?
Les Américains, il faut d'abord se souvenir, c'est 15% des émissions mondiales aujourd'hui. Le reste du monde, c'est 85%. Et le reste du monde est résolu à mettre en œuvre les accords de Paris. Et une partie des États qui constituent les États-Unis, plus de 15 États américains, font comme si l'accord de Paris s'appliquait à eux, de nombreuses villes américaines, de nombreuses grandes entreprises également. Donc il ne faut pas réduire les États-Unis à son président.
Donc ce n'est pas perdu ?
Ce n'est pas perdu. On ne peut pas arrêter du jour au lendemain le changement climatique, mais on peut en tout cas diminuer la gravité des impacts si on réduit les émissions. Et il faudrait les réduire beaucoup plus intensément, beaucoup plus rapidement que ce qu'on fait jusqu'à présent.
2 degrés, donc l'objectif des accords de Paris. Ça veut dire quoi concrètement pour la Belgique ? Ça veut dire qu'on arrive à sauver des zones humides comme les Hautes-Fagnes ? Ça veut dire qu'on garde des hêtres en Belgique ? Ça veut dire que le niveau de la mer n'augmente pas trop ?
Et ça veut dire qu'on limite les souffrances. Oui, ça veut dire qu'on limite les dégâts. Ça ne veut pas dire qu'on arrête et qu'on évacue tous les dégâts, mais on limite les dégâts.
Et on arrivera à respecter l'objectif ? Parce que avant les accords de Paris, il y a eu le protocole de Kyoto, avant il y a eu des sommets de la Terre. Le GIEC existe depuis 1988. On a vu qu'à chaque fois, ça n'était pas respecté. Est-ce que ça ne vous désespère pas quand même un petit peu, ça ?
Oui, c'est très frustrant. Donc tous mes collègues scientifiques sont extrêmement frustrés par le décalage.
C'est ce que vous racontez dans un bouquin, Une vie au cœur des turbulences climatiques.
Ouais. Il y a un décalage énorme entre l'analyse, le constat scientifique qui est très clair, qui est très clair depuis longtemps, et la faiblesse de l'action politique, économique pour réduire les émissions et protéger l'habitabilité de la seule planète habitable du système solaire. Il faut tout de même s'en souvenir.
Est-ce que vous comprenez qu'il y a des climato-sceptiques ?
Bien sûr, hein, c'est confortable d'être climato-sceptique. Hein, c'est comme les autruches qui se mettent la tête dans le sable pour ne pas voir le danger. Hein,
on le voit encore ce matin sur Twitter, ils vous prennent la partie, on dit que vous êtes alarmiste, que c'est scientifiquement pas réellement établi, que le débat scientifique doit se poursuivre.
Je les invite à lire le rapport du GIEC. Ça ne m'atteint pas parce que je pense que ces personnes sont d'habitude de mauvaise foi ou très mal informées. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'ils lisent davantage des documents scientifiques.
Est-ce que les politiques sont à la hauteur ?
Pour la plupart, je dirais non.
La plupart, ça veut dire y compris les Européens, y compris les Belges ?
Même en Europe, vous savez, l'Europe n'a toujours pas, après les apports de Paris, c'est tout de même sidérant, près de 3 ans après l'adoption de l'accord de Paris, revu vers plus d'ambition ces projets, alors que l'accord de Paris a des objectifs en termes de stabilisation de température qui sont plus ambitieux que ceux que l'Europe avait avant les accords de Paris. Donc même en Europe, on est en retard.
Et donc ça veut dire qu'on n'arrivera pas à limiter à 2 degrés le réchauffement.
C'est un risque très élevé si on reste sur les tendances actuelles, oui.
Ouais, et Jean-Pascal Vanier-Perzel, donc vous aviez été candidat à la présidence du GIEC, vous ne l'avez pas obtenu. Vous ne vous dites pas à un moment, tiens, finalement je devrais faire de la politique et je serais peut-être plus efficace si je quittais mon rôle de scientifique et si je montais moi-même au charbon, même si l'expression est dans ce cas-là très mal choisie.
C'est une question que je me pose parfois, mais je pense, jusqu'à présent en tout cas, que je suis plus efficace en parlant à tout le monde. Vous savez, j'ai été invité, je suis prêt à continuer à le faire, à parler dans les congrès de presque tous les partis politiques en Belgique et parfois à l'étranger. J'ai parlé à nombre de chefs d'État et de gouvernement. Je crois que ce serait plus difficile si j'avais une étiquette politique que je n'ai pas aujourd'hui. Je ne suis membre d'aucun parti et je parle à tout le monde.
Le GIEC, un jour, vous tenterez d'y revenir et